Hey, salut les amis! Bienvenue sur Paris au clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisauclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode sur le thème de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Clovis. Clovis, c'est le premier personnage important dans l'histoire de France. Dans cet épisode, nous allons voir qui était ce chef franc de la fin du 5e siècle. Nous sommes ici à la fin de l'Empire romain d'Occident. Clovis est donc un chef franc. Et les francs, vous les connaissez. C'est ce peuple d'origine germanique qui a donné son nom à la France. Et Clovis est un guerrier, a warrior en anglais. Il va réussir, bataille après bataille, à agrandir considérablement le territoire des Francs vers le sud. Et à la fin de sa vie, il règne sur un territoire qui ressemble beaucoup à la France d'aujourd'hui. Et il fait de Paris sa capitale. Dans cet épisode, je vais donc vous raconter l'histoire de Clovis, le premier grand personnage de l'histoire de France. Mais avant de commencer à parler de Clovis, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Si vous voulez pratiquer votre français à l'oral, je vous propose maintenant des cours de conversation en petits groupes sur Skype. Chaque semaine, nous pratiquons ensemble le français pendant 1h30. Nous parlons de sujets liés à la culture. Par exemple, nous parlons de nos films, de nos livres, de nos séries, de nos musées préférés. Et une semaine avant le cours, je vous envoie une vidéo et un PDF qui explique le thème avec des exemples et du vocabulaire pour vous aider à vous préparer. Les cours ont donc lieu chaque semaine avec 5 participants maximum par groupe. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire un message sur mon site ou sur Instagram. Vous trouverez plus d'informations sur mon site parisauclock.com dans la partie Group Lessons. Voilà, si je peux faire autre chose pour vous aider, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore quand vous me donnez de nouvelles idées pour vous aider. Revenons maintenant à l'histoire de France. Je voudrais commencer par faire un petit résumé des épisodes d'histoire précédents. C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé d'histoire, et je voudrais que la chronologie des événements soit bien claire pour vous. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des Romains et de la conquête romaine. Nous avons vu que le célèbre Jules César décide d'attaquer la Gaule en 58 avant Jésus-Christ. C'est le début de la guerre des Gaules. La Gaule, c'est un nom inventé par César pour parler du territoire situé de l'autre côté des Alpes par rapport à Rome. Et la Gaule ressemble plus ou moins à la France d'aujourd'hui. Et pour César, les peuples qui vivent sur ce territoire, les peuples qui vivent en Gaule, ce sont les Gaulois. Cette guerre se termine en 52 avant Jésus-Christ avec la célèbre bataille d'Alésia et la défaite du chef gaulois Vercingétorix. C'est le début de la période gallo-romaine. Les cultures gauloises et romaines vont se mélanger. Et l'arrivée des Romains en Gaule marque le début d'une grande période de paix et de prospérité économique en Gaule. Les Romains introduisent leur mode de vie en Gaule et créent des villes sur le modèle des villes romaines. À cette époque, la ville de Lyon est la capitale de la Gaule. Paris n'est pas la capitale. D'ailleurs, Paris ne s'appelle pas encore Paris, mais Lutèce. Lutèce, c'est le nom de la ville de Paris à l'époque des Romains. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, vous pouvez les retrouver très facilement sur mon site parisoclock.com dans la partie podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée comme Spotify ou Apple Podcast par exemple. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes donc arrêtés à l'époque gallo-romaine. Une époque où c'est Rome qui règne sur la Gaule. La Gaule fait partie de l'Empire romain. Les Gaulois ont adopté le mode de vie à la romaine. Ils parlent latin. Ils s'habillent avec des toges. Ils fréquentent les thermes, c'est-à-dire les bains publics. Bref, ils sont devenus des gallo-romains. Et la Gaule connaît une grande période de paix et de prospérité économique. C'est la Pax Romana, la paix romaine. Elle va durer environ 200 ans. Mais petit à petit, l'Empire romain va commencer à perdre sa puissance. Et des peuples vont en profiter pour l'attaquer. À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain est attaqué par des peuples qu'on appelle les barbares. Les barbares, ce sont les peuples qui ne parlent ni latin ni grec. C'est le début des grandes invasions qui vont durer plusieurs siècles. L'Empire romain est incapable d'arrêter ses ennemis qui sont de plus en plus nombreux. Les Romains vont donc finalement décider de conclure des traités, des pactes, avec ces peuples barbares. Les Romains vont donner des terres aux barbares. Et en échange, les barbares doivent défendre l'Empire en cas de nouvelle attaque. Et c'est ainsi que progressivement, les Burgondes, les Alamans, les Visigoths et les Francs vont s'installer en Gaule romaine. L'Empire romain d'Occident est en train de s'effondrer. Il est en train de disparaître. Et l'année 476 marque la fin de l'Empire romain d'Occident. pour les historiens, la fin de l'Empire romain d'Occident marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Moyen Âge, c'est Middle Ages en anglais. Nous sommes donc maintenant au tout début du Moyen Âge. Parmi ces peuples barbares qui s'installent en Gaule, il y a un peuple qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce sont les Francs. Comme nous l'avons dit en introduction, les Francs, c'est ce peuple d'origine germanique qui a donné son nom à la France. En 480, les Francs ont un nouveau chef, Clovis. Clovis a 15 ans et il est très charismatique. À son arrivée au pouvoir, à la tête des Francs, il règne sur un petit territoire au nord de la Gaule qui ressemble plus ou moins à la Belgique actuelle. Le reste de la Gaule est occupé par différents peuples barbares. Le sud-ouest de la Gaule est occupé par les Visigoths. De l'autre côté, le sud-est est occupé par les Burgondes. Et les Burgondes donneront leur nom à une région qui s'appelle la Bourgogne, Burgundy en anglais, ça vient de Burgonde. À l'est, il y a les Alamans, et les Alamans donneront leur nom à l'Allemagne. Et au milieu de la Gaule, au milieu de tous ces peuples barbares, il reste une dernière province romaine. Cette province est placée sous le commandement du général romain Syagrius. Le quartier général de Syagrius se trouve dans la ville de Soissons. Retenez bien le nom de cette ville. Je vais vous reparler de Soissons dans un instant, vous allez voir. Voilà donc à quoi ressemble la Gaule quand Clovis devient chef des Francs. Elle est partagée entre les différents peuples barbares et il reste une dernière province romaine. Clovis devient chef des Francs en 481. Nous parlons donc ici de temps très ancien et cette époque est très mal documentée. Les historiens n'ont pas beaucoup de documents sur Clovis. Le peu d'informations que nous avons vient d'un évêque. Un évêque, c'est bishop en anglais. Cet évêque s'appelle Grégoire de Tours et il a écrit l'histoire des Francs 70 ans après la mort de Clovis. Donc, on ne peut pas vraiment être sûr que tout se soit passé exactement comme cet évêque l'a écrit. Il a écrit l'histoire des Francs après la mort de Clovis. Dans son livre sur l'histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte notamment deux histoires que tous les écoliers de ma génération ont apprise à l'école. C'est l'histoire du vase de Soissons et l'histoire du baptême de Clovis. Ces histoires sont peut-être seulement des légendes, mais elles sont très connues. Je vais commencer par vous raconter l'histoire du vase de Soissons. Clovis veut agrandir son territoire. Il veut un territoire plus grand. Il va donc se battre contre les autres peuples qui occupent la Gaule. Et il commence par attaquer la province romaine qui se situe au centre de la Gaule. C'est la célèbre bataille de Soissons en 486. Et c'est Clovis qui gagne cette bataille contre les Romains. Clovis commence déjà à agrandir son territoire. Après la victoire, Clovis et ses hommes se partagent le butin de guerre. Le butin de guerre, c'est l'ensemble des richesses qu'on vole aux ennemis après une victoire en temps de guerre. Donc après la victoire de Soissons, Clovis et ses hommes se partagent les richesses qu'ils ont volées aux églises de la région de Soissons. D'après la coutume franque, le partage doit être égal. Tout le monde doit recevoir la même chose. Les chefs n'ont pas plus que les autres. Et chaque part doit être tirée au sort. Cela signifie que les hommes ne peuvent pas choisir les richesses qu'ils vont recevoir. Mais ce jour-là, Clovis ne respecte pas la règle. En plus de sa part du butin, il veut prendre un vase magnifique. Un vase, vous connaissez ce mot, c'est le même mot en anglais, a vase. C'est un récipient pour mettre des fleurs, mais c'est aussi un objet utilisé par les églises pour des cérémonies religieuses. Alors, pourquoi est-ce que Clovis veut prendre ce vase? Eh bien, Clovis veut établir de bonnes relations avec l'Église romaine catholique. À cette époque, Clovis et ses hommes sont païens. Ils croient en plusieurs dieux germaniques. Ils ne sont pas chrétiens. Mais la majorité de la population gauloise est chrétienne. Clovis comprend que pour agrandir son territoire en Gaule, il a besoin de l'aide de l'Église chrétienne. Et après la bataille de Soissons, un évêque, demande à Clovis de lui rendre un magnifique vase que les Francs lui ont volé. Clovis veut donc prendre ce vase pour le rendre à l'évêque. C'est pas pour le garder, c'est pas pour lui, c'est pour le rendre à l'évêque. En fait, Clovis veut faire plaisir à cet évêque. Mais un des hommes de Clovis n'est pas d'accord. Cet homme est en colère parce que Clovis ne respecte pas la règle de partage des richesses. Cet homme prend alors son arme et frappe violemment le vase. Sur le moment, Clovis ne réagit pas. Il prend le vase et il rend le vase abîmé à l'évêque. Abîmé, c'est damaged. Le vase est abîmé. Mais un an plus tard, Clovis va prendre sa revanche. Clovis passe en revue son armée. Cela signifie qu'il examine, qu'il inspecte son armée. Il regarde, par exemple, si les armes de ces hommes sont en bon état. Et donc, alors qu'il est en train de passer en revue son armée, Clovis voit l'homme qui avait frappé le vase de Soissons. Clovis observe les armes de cet homme et il voit qu'elles ne sont pas en bon état. Clovis prend les armes et d'un geste brutal, il les jette par terre. Le soldat se baisse pour ramasser ses armes. Et là, attention, c'est assez violent. Et là, Clovis lève son arme et la plante dans la tête de l'homme. De la même manière que l'homme avait planté son arme dans le vase de Soissons. À ce moment-là, Clovis dit « Souviens-toi du vase de Soissons ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire est racontée par l'évêque Grégoire de Tours, 70 ans après la mort de Clovis, donc on ne sait pas si tout est vrai. Cette histoire nous semble très violente aujourd'hui, et les Francs étaient clairement un peuple violent. Mais pour l'évêque Grégoire de Tours, cette histoire est importante parce qu'elle nous montre que Clovis respectait l'Église, qu'il voulait la protéger et établir des bonnes relations avec le clergé. Et cette histoire nous montre aussi que Clovis cherchait à obtenir le respect de ses hommes. La deuxième histoire qui est très connue, c'est l'histoire du baptême de Clovis. En 496, Clovis est en train de mener une nouvelle bataille. Clovis et ses hommes se battent maintenant contre les Alamans. C'est la célèbre bataille de Tolbiac. Cette bataille commence très mal pour Clovis et ses hommes. Clovis a le sentiment que tout est perdu. Il est en train de perdre cette bataille. À cette époque, Clovis est païen, comme nous l'avons déjà dit. Il croit en plusieurs dieux germaniques. Et la légende raconte que Clovis demande de l'aide à ses dieux. Mais les dieux de Clovis ne semblent pas entendre ses prières, parce que rien ne change. La bataille semble vraiment perdue pour Clovis. Clovis demande alors de l'aide à Jésus. Il promet à Jésus qu'il se convertira au christianisme s'il gagne la bataille. Et à ce moment-là, toujours d'après la légende, il y a un véritable miracle. Le chef des Alamans est tué. Le chef des Alamans est mort. C'est donc la victoire pour Clovis. Clovis va tenir sa promesse. Il va se convertir au christianisme. Il va se faire baptiser à Reims par l'évêque Rémi. Clovis s'est peut-être converti au christianisme par conviction personnelle, mais il avait très certainement aussi des raisons politiques. Cette conversion aide Clovis dans ses conquêtes et dans le contrôle de son territoire. Clovis s'installe sur un territoire chrétien. Il a donc besoin du soutien de la population et des évêques de ce territoire. Clovis décide de faire de Paris la capitale de son territoire. Il s'installe sur l'île de la Cité. Comme nous l'avons vu en introduction, Paris s'appelait Lutèce à l'époque des Romains. Eh bien, la ville change de nom et devient maintenant Paris, en référence aux premiers habitants de Paris qui s'appelaient les Parisiens. C'est la première fois que Paris prend le statut de capitale. Et le nom du territoire aussi va changer. On ne va plus parler de la Gaule, mais du royaume des Francs. Clovis est donc le premier chef franc à s'être fait baptiser. Grâce à sa conversion au catholicisme, Clovis réussit à unifier son territoire. Petit à petit, les Gaulois et les Francs vont former une seule et même nation, le royaume des Francs. Royaume, c'est « kingdom ». Et à la fin de sa vie, Clovis règne sur un territoire qui ressemble beaucoup à la France d'aujourd'hui. Pour préparer cet épisode, j'ai repris les informations d'une émission de télévision que j'aime beaucoup, La Belle Histoire de France. Cette émission est présentée notamment par l'historien Franck Ferrand. J'ai également utilisé le livre Becherel, Chronologie de l'Histoire de France, aux éditions Attier. Et j'ai également consulté différents sites internet. Vous trouverez toutes les sources que j'ai utilisées dans la transcription de l'épisode sur mon site parisoclock.com. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis !